Avertissement du rap Grande Culture numéro 7 du 11 juin 2021, lu par Isabelle Fréchette. Dans cet avertissement, il est question du dépistage recommandé de la cicadelle de la pomme de terre et du charançon postiche dans la luzerne, de la chrysomèle du haricot dans du soya, de criquet, de la tipule des prairies et du ver gris moissonneur, de trips dans le maïs, de carence en potassium dans le soya et finalement des faibles captures de papillons de la légionnaire uniponctuée. Luzerne, dépistage de la cicadelle de la pomme de terre et du charançon postiche recommandé. Cicadelle de la pomme de terre. En Ontario et dans l'État de New York, on rapporte des champs de luzerne colonisés par la cicadelle de la pomme de terre. Un dépistage a déjà été réalisé cette semaine en Estrie dans deux luzernières, à Waterville et à Stanstead. Les cicadelles étaient déjà présentes, les populations étaient sous le seuil d'intervention dans un champ alors que les populations dans l'autre s'en approchaient. Des cicadelles ont également été dépistées à Sainte-Anne-de-Bellevue dans de la luzerne en implantation et le seuil d'intervention était atteint. Dans le cadre du rap Grande Culture, plusieurs champs dans différentes régions feront l'objet de dépistages à partir de la semaine prochaine. Considérant l'impact que cet insecte peut avoir sur le rendement et la qualité du fourrage, les producteurs sont invités à dépister leurs prairies, en particulier dans leur luzernière en implantation, et ce, avant de voir des symptômes apparaître. Le dépistage des insectes devrait se faire tous les 5 à 7 jours. Le suivi pourrait être nécessaire jusqu'à la mi-août, moment où les cicadelles réduisent leurs activités. Dépendamment du niveau des populations de l'insecte, qui doit être évalué par un dépistage avec un filet fauchoir, du stade et de la hauteur de la luzerne, la meilleure stratégie pourrait être de devancer la coupe et de surveiller les populations par la suite. Pour en savoir plus sur la biologie de l'insecte, comment le dépister et les stratégies d'intervention, référez-vous à la fiche technique « La cicadelle de la pomme de terre dans la luzerne ». Certaines variétés de luzerne offrent une certaine tolérance face à l'insecte grâce à la présence de poils sur les feuilles. Ces poils sont moins développés lors de l'année de l'implantation. De plus, en cas de forte infestation, ces variétés peuvent tout de même subir des pertes de rendement. Malgré tout, les producteurs devraient vérifier si leur luzerne est tolérante, car la luzernière pourrait supporter jusqu'à 4 fois plus de cicadelles. Dans l'avertissement, vous avez des photos de l'insecte et des dommages. Charançon postiche de la luzerne. Des fortes populations d'un autre ravageur, le charançon postiche de la luzerne, ont également été rapportées en Ontario et dans l'État de New York. Deux champs en Outaouais ont également été endommagés par les larves de cet insecte. Les infestations sont peu fréquentes au Québec, mais le temps sec au printemps défavorise les ennemis naturels du ravageur. Contrairement à la cicadelle qui ne peut pas survivre sous nos latitudes durant l'hiver, le charançon hiberne sous forme adulte dans les débris végétaux. Au printemps, les adultes pondent dans les tiges de luzerne. Bien que les adultes peuvent endommager les feuilles, ce sont surtout les larves qui causent d'importantes défoliations, pouvant entraîner des pertes de rendement et de qualité du fourrage. Les dommages sont caractérisés par des trous en forme d'épingle et éventuellement ces trous peuvent s'étendre et ainsi donner une apparence squelettique au plant. Ce charançon n'a qu'une génération par année. Lorsque les larves se transforment en cocons sur les feuilles, la culture n'est plus à risque. Un dépistage des larves permettra de déterminer s'il est nécessaire de devancer la fauche au cours de laquelle les larves peuvent être blessées ou tuées. Après une fauche, il est très important de surveiller la repousse de la luzerne pour s'assurer que des larves survivantes ne s'y attaquent pas. Dans le cas contraire, une perte totale du peuplement de luzerne pourrait survenir. Il n'y a pas de seuil économique d'intervention adapté pour le Québec. En Ontario, on estime qu'il pourrait être justifié d'employer un insecticide si dans la repousse de la première coupe, on observe 2 larves actives par collet ou de 4 à 8 larves par zone de 30 cm². Un des signes montrant que les larves sont toujours actives après la fauche est que les plants ne verdissent pas. Si jamais la première coupe n'a pas été réalisée, le protocole de dépistage ontarien consiste à prélever 30 tiges de luzerne, coupées à la base et recueillies en parcourant le champ en suivant un tracé en forme de M. Puis, il faut mesurer les tiges et les taper à l'intérieur d'un seau blanc afin de faire tomber les larves dedans et de dénombrer les larves qui sont supérieures à 3 mm. Il faut écarter du compte les larves plus petites et celles qui sont amorphes, jaunes ou brunes, puisque ces dernières sont parasitées. Selon ce protocole, le seuil d'intervention varie selon la taille des plants et du nombre moyen de larves par tige. Les actions qui peuvent être prises sont la fauche ou éventuellement l'utilisation d'un insecticide. Pour connaître la liste des produits disponibles, référez-vous au site Sage Pesticides. Voici les seules interventions recommandées en Ontario. À moins d'une larve par tige, la hauteur n'est pas à considérer. Il n'y a aucune intervention à faire, simplement poursuivre le suivi. Entre une et deux larves par tige, intervenir si la taille de la luzerne est inférieure à 30 cm. Entre deux et trois larves par tige, intervenir si la taille de la luzerne est inférieure à 40 cm. Et s'il y a plus de trois larves par tige, la hauteur n'est pas à considérer. Une intervention est recommandée, soit la fauche ou un insecticide s'il n'est pas possible de récolter. Pour plus d'informations, référez-vous au guide agronomique des grandes cultures de la Mafra. Chrysomèle du haricot, il est encore temps de dépister. La chrysomèle du haricot est présente dans certains champs de soya depuis deux ou trois semaines, en particulier en Montérégie où sont concentrés les foyers connus. Ces insectes causent des dommages aux feuilles de soya qui peuvent être impressionnants. Cependant, il y a deux éléments rassurants. D'une part, ces insectes cesseront naturellement de s'alimenter dans les prochains jours. Une diminution des dommages par rapport à la semaine dernière a d'ailleurs été observée le 10 juin dans des champs en Montérégie-Est. D'autre part, le soya peut supporter une défoliation importante entre le moment où les premières feuilles unifoliées sont déployées et l'apparition des premières fleurs. Durant les prochains jours, ce sont surtout les champs où seuls les cotylédons sont sortis de terre qui pourraient être menacés puisque les dommages aux cotylédons à ce stade peuvent compromettre le développement des plants. Pour en savoir plus sur les foyers connus, la méthode de dépistage et le seuil d'intervention au stade plantule, référez-vous à l'avertissement numéro 5 du 31 mai 2021. Comme la ponte à la base des plants est toujours en cours, un dépistage est recommandé pour anticiper la présence d'adultes qui émergeront vers la mi-juillet. Cette génération représente davantage une menace pour la culture au moment du développement des gousses. Bien qu'il soit difficile de prédire si les conditions chaudes et sèches impacteront la survie des œufs, ou si la migration des adultes vers d'autres champs voisins aura lieu, les champs présentement infestés pourraient être plus à risque. Dans l'avertissement, vous trouvez une photo montrant deux spécimens de la chrysomèle du haricot sur du soya. Présence de criquets et autres insectes défoliateurs. De jeunes criquets ont été aperçus en Montérégie-Est, en Mauricie, dans la Chaudière-Appalaches, au centre du Québec et dans la capitale nationale. Les populations de criquets pourraient être abondantes cette année puisque le temps chaud et sec favorise leur développement. Soyez à l'affût des dommages que pourraient causer les criquets, particulièrement en sol sableux. Les criquets, souvent appelés à tort sauterelles, peuvent s'attaquer au feuillage du soya, du maïs, des céréales, ainsi qu'aux prairies et aux pâturages. Il est assez rare que les criquets causent des dommages suffisamment importants pour justifier une intervention. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique « Les criquets en grande culture, biologie, dépistage et stratégie d'intervention ». Les champs de soya en sol sableux seront particulièrement à surveiller puisqu'ils sont souvent les premiers affectés par les criquets. Dans le soya, la chrysomèle du haricot est présente dans certains champs dans le sud de la province. Cet insecte est le sujet d'une autre section du présent avertissement. Le méloué cendré, le scarabée japonais, la belle dame et l'altise à tête rouge sont aussi des insectes défoliateurs de cette culture. La présence de ces derniers n'a pas été signalée pour le moment. Concernant le méloué cendré, il n'est pas recommandé de lutter contre cette espèce avec un insecticide puisque l'adulte ne fait que des dommages localisés et sa progéniture se nourrit notamment des œufs de criquet. Pour en savoir davantage sur les autres insectes défoliateurs du soya, la façon d'évaluer le pourcentage de défoliation et les seuils d'intervention en fonction du stade de la culture, consultez le bulletin d'information « Défoliation du soya par divers ravageurs » méloué cendré, criquet, scarabée japonais, altise, limace, etc. Tipule des prairies ou vert-gris. Vigilance toujours de mise au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches. Depuis le dernier avertissement, quelques nouveaux signalements de champs affectés par la tipule des prairies ou par des vers-gris ont été rapportés au Bas-Saint-Laurent, les vers-gris étant probablement des vers-gris moissonneurs. Un nouveau cas de vers-gris dans un champ en implantation de prairies pures a également été signalé à Saint-Roch-des-Aulnais, en Chaudière-Appalaches. Les larves trouvées étaient petites et encore actives. Les conditions météorologiques hivernales et printanières semblent avoir été favorables aux deux ravageurs. Compte tenu de la similitude des dommages, en cas de problème, il est important de trouver des larves afin d'identifier le ou les coupables. L'approche pourrait être différente en fonction du diagnostic. S'il s'agit d'une prairie, comme il n'y a pas d'insecticide homologué pour la tipule et les vers-gris, devancer la fauche sera probablement la stratégie qui sera envisagée. Il serait tout de même utile de connaître l'espèce qui pose problème pour se préparer pour l'année prochaine. S'il s'agit d'un champ de céréales, aucun insecticide n'est homologué pour lutter contre la tipule des prairies. Une intervention chimique pourrait cependant être possible sur des larves de vers-gris si elles n'ont pas atteint 2,5 cm de longueur, taille à partir de laquelle les traitements ne sont plus efficaces. Dans l'avertissement, vous trouverez une figure qui résume les principales différences entre les larves de tipule et celles des vers-gris, qui comprend de belles photos montrant les différences au niveau des extrémités. Les vers-gris ont des petites pattes, contrairement à la tipule qui n'en a pas. Et il y a une différence notable au niveau de leur comportement, c'est-à-dire que si on dérange les larves de vers-gris, ceux-ci vont s'enrouler sur eux-mêmes, alors que si on manipule les larves de tipule, elles vont plutôt se tortiller. Pour obtenir plus de renseignements sur la biologie de la tipule des prairies et les stratégies d'intervention, consultez la fiche technique du RAP Grande Culture consacrée à ce ravageur. Quant au vers-gris moissonneur, plusieurs informations ont déjà été communiquées sur le sujet. Pour en savoir davantage, référez-vous aux avertissements déjà diffusés en commençant par l'avertissement numéro 6 du 4 juin 2021. Maladie des céréales. Les conditions sèches limitent et contiennent jusqu'à présent les risques de maladie des céréales. Les maladies qui ont jusqu'à maintenant fait l'objet d'un suivi particulier par le RAP chez les céréales d'automne sont la rouille jaune, l'oïdium et la fusariose de l'épi. Les conditions agrométéorologiques ont été généralement en défaveur du développement de ces maladies dans l'ensemble des régions. On rapporte toutefois cette semaine un cas d'oïdium en Chaudière-Appalaches et il demeure possible que la maladie puisse évoluer en raison de conditions plus fraîches dans les prochains jours. Il faut viser à protéger les dernières feuilles supérieures du plant de la céréale et suivre la progression de la maladie. La feuille étendard et les deux feuilles en dessous doivent être exemptes de la maladie pour préserver le plein potentiel de rendement. Veuillez vous référer à l'avertissement numéro 3 pour plus d'informations sur l'oïdium. Les conditions ont été peu favorables à l'infection causant la fusariose de l'épi chez les céréales d'automne. Si la culture de la céréale d'automne a dépassé la mi-floraison, une intervention pour réprimer la fusariose serait de toute façon peu efficace. Pour les champs de céréales de printemps, semés très tôt et qui atteindront dans les prochains jours la période sensible, il sera bientôt le temps de se soucier du risque d'infection de la maladie. Vous pouvez consulter les cartes de risque sur le site d'Agrométéo Québec. Pour en savoir davantage sur la maladie, veuillez vous référer à la fiche technique « La fusariose de l'épi chez les céréales ». Dans l'avertissement, vous avez une figure qui illustre bien l'apparence des épis au moment de la période qui optimise l'efficacité du traitement avec un fongicide. Le site web Sage Pesticides répertorie tous les produits homologués, dont ceux pour lutter contre cette maladie. Dans l'avertissement, vous avez les liens pour accéder à toutes sortes de listes de produits en fonction de la culture. Donc, vous avez les listes pour le blé d'automne, le seigle d'automne et pour les céréales de printemps, le blé de printemps et l'orge. Notez que pour le blé, il existe un produit homologué pour la production biologique. Mise en garde. Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agrométéo Québec, Solutions Maisonnette et le RAP Grande Culture ne peuvent être tenus responsables de tout dommage de quelque nature que ce soit, notamment la perte de rendement agricole, la perte de qualité ou toute autre perte financière résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ces cartes. Trips observés dans du maïs. Des trips ont été observés dans certains champs de maïs en Estrie. Ces minuscules insectes sont de forme allongée et mesurent environ 1 mm. Ils sont peu fréquents dans les champs de maïs, mais peuvent devenir abondants lors d'une période prolongée de temps chaud et sec. On peut les retrouver sur différentes parties des plants de maïs, comme les cornets et le dessous des feuilles. Tant les adultes que les larves s'alimentent en aspirant le contenu des cellules des plantes. Cela cause de minuscules cicatrices blanches qui, lorsqu'abondantes, peuvent donner l'impression qu'une feuille entière est blanchâtre ou grisâtre. Si une infestation de thrips est sévère, les feuilles peuvent devenir déformées et desséchées sur les marges. Les rafales de vent dessécheront davantage les tissus végétaux et aggraveront les blessures des thrips. Toutefois, généralement, les plants de maïs sortiront indemnes d'une telle infestation en profitant du retour des conditions météorologiques plus saisonnières. Aucun traitement insecticide n'est homologué contre les thrips dans le maïs. L'utilisation d'insecticides à large spectre est à éviter car ceux-ci éliminent les insectes bénéfiques qui contribueront au contrôle naturel des thrips. Dans l'avertissement, vous avez une photo montrant une feuille atteinte par des thrips, donc vous voyez les dommages. Et si vous agrandissez, vous allez voir des points noirs qui sont les excréments des thrips et deux thrips. La carence en potassium dans la culture du soya. À ce moment de l'année, il est possible d'apercevoir des signes de carence en potassium dans le soya. La sécheresse peut accentuer cette problématique. Chez le soya, la carence provoque le jaunissement de la bordure des feuilles. Ce symptôme apparaît d'abord au bout des feuilles et peut s'étendre sur plus de la moitié de la surface des feuilles en laissant leur base verte. Les symptômes peuvent être confondus avec ceux provoqués par le nématode achiste du soya. Ils peuvent également ressembler à des symptômes causés par d'autres carences minérales, par exemple de la chlorose ferrique. Des dommages d'herbicides, tels que les sulfonylurées, par exemple la chlorose ferrique, des dommages d'herbicides, sulfonylurées, groupe 2, seldamine, groupe 4, triazine, groupe 5, etc., et certaines maladies, par exemple la pourriture brune de la tige. Les analyses de sol et de tissus végétaux sont donc d'excellentes façons de confirmer un diagnostic de carence en potassium. Une photo montrant des symptômes d'une carence en potassium dans le soya est intégrée à l'avertissement. Légionnaire uniponctué, très faible capture de papillons. Depuis début mai, les captures de papillons de la légionnaire uniponctuée sont nulles ou très faibles. Le maximum de papillons capturés a été atteint à Deschambault-Grondine, dans la capitale nationale, où 40 papillons ont été piégés entre le 24 et le 31 mai, avec un piège plus sensible, le piège Héliotis, que celui traditionnellement utilisé par le réseau, qui est le piège multifère. Le seuil où il est recommandé de faire un dépistage des larves est de 10 papillons par jour ou de 100 papillons par piège depuis le début du printemps avec le piège multifère. Aucun site sur les 63 suivis n'a atteint ce seuil au Québec jusqu'à maintenant en 2021. Dans l'avertissement, vous trouverez un graphique montrant les moyennes des captures pour la province à chaque semaine, obtenues du début mai jusqu'au 3 juin. À titre comparatif, 2017 est la dernière année où plusieurs champs ont fait l'objet de dommages importants causés par cet insecte et on voit dans le graphique que la courbe de 2021 est bien en dessous de celle de 2017. Les quantités de papillons capturés ne reflètent pas toujours bien l'intensité des infestations de larves. Il serait donc possible de constater des dommages dans quelques champs à risque situés dans des secteurs où il y a eu peu de papillons capturés. Les champs à risque sont les champs de céréales de printemps et de maïs semés tardivement et mal désherbés, particulièrement les endroits où il y a eu présence ou avec présence de chiens dents, les peuplements denses de céréales et de graminées vivaces, les prairies situées à proximité des cours d'eau. Attention de ne pas confondre les larves de la légionnaire uniponctuée avec les larves d'autres espèces comme d'évergris ou l'hespérie des graminées. Des larves de légionnaire uniponctuée à différents stades de développement ainsi que différentes couleurs peuvent être observées au même moment dans un même champ. Les conditions météorologiques influencent le développement des larves. Le temps sec et les températures plus élevées que 22-25 degrés Celsius leur sont défavorables. Pour en savoir plus sur l'identification de l'espèce, la méthode de dépistage et les seuils économiques d'intervention, consultez l'avertissement numéro 6 du 21 juin 2019. Si vous trouvez des larves de légionnaire uniponctuée, merci de contacter le sérum à l'adresse rapserum@serum.qc.ca et de leur faire parvenir des spécimens afin d'évaluer la présence d'ennemis naturels. Toute intervention de contrôle d'un ennemi des cultures doit être précédée d'un dépistage et de l'analyse des différentes stratégies d'intervention applicables. Prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique. Le réseau d'avertissement phytosanitaire préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des risques associés à l'utilisation des pesticides. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAB.